Et on commence comme chaque soir avec le premier journal de la soirée, celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi 5 novembre commence avec une affaire qui refait parler d'elle.
Oui, le patron du Modem, François Bayrou, en route vers une mise en examen. Il a reçu sa convocation devant les juges, tout comme Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. L'affaire des emplois fictifs devient une menace très concrète pour les centristes. Marseille pleure ses morts un an après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Mais l'habitat insalubre est toujours d'actualité, surtout quand les copropriétés s'appauvrissent. Des quotas d'immigration par métier, carrossier ou couvreur, le gouvernement entr'ouvre la porte de l'immigration économique, professionnelle. Et la diplomatie française s'appuie sur ses pépites culturelles. Le président Macron, en visite en Chine, a inauguré un nouveau centre Pompidou à Shanghai et il a signé des partenariats franco-chinois avec les musées Picasso, Rodin ou encore le château de Versailles.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes à 52 mardi des prochaines élections présidentielles américaines. Le paysage chez les démocrates s'éclaircit un peu, pas beaucoup, mais peu de choses semblent atteindre ce président, pas même l'impeachment qu'il menace. On le voit avec notre premier invité. Le bruit du monde est dans les champs d'oliviers de Palestine. Et puis 19h20, le téléphone sonne, c'est à vous de jouer. Vous avez des questions sur la réforme des retraites. Est-ce que vous avez bien compris l'idée des points? Est-ce que vous avez un régime spécial que vous craignez de perdre? Est-ce que vous vous interrogez sur votre profession? Vous tombez bien, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, est là tout seul avec vous et vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'affaire des emplois fictifs au Modem s'accélère donc brutalement.
Et on apprend cet après-midi par le journal Le Monde que François Bayrou, en personne, est convoqué par la justice pour être mis en examen. Le président du Modem n'ira pas seul. Également convoqué le 6 décembre prochain, la députée Marielle de Sarnez, son bras droit, et Sylvie Goulard, ancienne ministre, elle aussi retoquée par la Commission européenne à cause de cette affaire. Sylvain Tronchet nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir Amélie.
De la cellule d'investigation de Radio France. C'est vous qui avez sorti cette affaire des emplois fictifs au Parti centriste il y a 2 ans. Il semblerait que la justice ait rassemblé aujourd'hui suffisamment d'éléments à charge contre les instances du Modem.
Oui, parce que rappelons-le, une mise en examen, cela signifie effectivement que les juges ont réuni suffisamment d'indices graves et concordants. Hein, c'est la phrase consacrée qui rendent vraisemblables les infractions, en l'occurrence escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds publics. Ces indices, ce sont notamment des témoignages d'anciens assistants parlementaires dont certains sont venus dire devant le juge que oui, leur emploi était fictif, du moins ils travaillaient bien pour le parti, le Modem, mais sous contrat de travail du Parlement européen. D'autres ont nié avec plus ou moins de conviction, mais les enquêteurs ont aussi pu s'appuyer sur des documents, notamment des échanges de mails entre responsables du parti centriste, dont certains sont accablants, comme ce message de l'ancien directeur de cabinet de François Bayrou qui écrit « Les députés européens se sont engagés à consacrer un tiers de la dotation pour payer leurs assistants au salaire des collaborateurs du Modem ». On peut difficilement faire plus clair, tout comme Sylvie Goulard a finalement été très claire quand elle a remboursé 45 000 euros de salaire de son ancien assistant dont elle a admis qu'il ne travaillait plus pour elle en réalité fin 2013, début 2014. Si ce remboursement peut éventuellement clore son contentieux avec le Parlement européen, pour la justice française, c'est un indice de plus. Ces indices qui valent donc à 6 responsables du Modem et 9 anciens assistants parlementaires d'être convoqués pour être mis en examen.
Sylvain Tronchet, merci à vous. On peut réécouter le secret d'info du 14 septembre dernier. C'est votre enquête complète. C'est sur franceinter.fr. Patrick Balkany, le maire de droite de Levallois, plaidait, lui, aujourd'hui pour sa remise en liberté après sa double condamnation à de la prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. La demande pour sa première condamnation a été acceptée la semaine dernière. Si celle-ci l'était aussi, il pourrait retrouver la liberté en attendant ses procès en appel. La décision du jour sera rendue dans une semaine. Marseille accuse encore ses dirigeants locaux un an jour pour jour après l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne près du Vieux-Port. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées près du trou ce matin entre larmes et colère devant les portraits affichés des 8 victimes et les bougies déposées toute la journée sur le site de la catastrophe. L'habitat insalubre, une réalité toujours d'actualité à Marseille. La Fondation Abbé Pierre estime à 100 000 le nombre de Marseillais vivant dans des taudis. D'autant que les travaux nécessaires coûtent parfois trop cher à des copropriétés de moins en moins riches, comme l'a raconté cet habitant de la rue d'Aubagne, rencontré aujourd'hui dans le rassemblement par notre reporter sur place, Olivier Martoc.
La charge émotionnelle, une nouvelle fois, a été très forte rue d'Aubagne, à 20 mètres des immeubles effondrés. Dans cette foule de Marseillais, souvent directement impactés par le drame, certains, comme Jean, expliquent qu'ils vivent toujours un cauchemar. Son immeuble est le numéro 95 de la rue.
Moi, j'ai été délogé, réintégré. Hier, on a eu une investigation pour établir l'état de santé de notre immeuble. Les dégâts sont considérable. Nous avons dans les 300 000 euros de travaux et la note va être très, très, très lourde. Parce que ces aides qu'on nous a présentées comme étant mérifiques, on nous annonce que, en fait, il va falloir faire l'avance de l'argent. Mais ça sert à quoi de prétendre aider les gens qu'on leur demande de faire l'avance? Ah ben, on vous remboursera quand? On ne sait pas. Mais un jour, on vous remboursera. Mais en attendant, il faut avancer les 300 000 euros.
À la suite du drame de la rue d'Aubagne, 3 500 personnes ont été délogées à Marseille. Autant de cas particuliers, dont la plupart ne sont toujours pas résolus un an après le drame. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Une grande marche contre le logement insalubre est organisée samedi à Marseille. Dans le même temps, on apprend qu'il n'a jamais été aussi facile de devenir propriétaire. Les taux d'emprunt pour l'immobilier sont retombés à un niveau historiquement bas le mois dernier, selon une étude de référence publiée aujourd'hui. En moyenne, en octobre, le taux des crédits a atteint 1,13%. À cela s'ajoutent des délais de remboursement de plus en plus longs. En moyenne, on emprunte aux banques sur un peu plus de 19 ans.
Une petite révolution dans la politique migratoire du gouvernement.
Le gouvernement s'apprête à annoncer l'instauration de quotas pour les immigrés économiques. Le Premier ministre a présenté le mécanisme à sa majorité. Il s'agit de dresser une liste de métiers où l'on peine à recruter, des aides à domicile aux charpentiers en passant par les géomètres. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Cette liste existe déjà, mais elle n'avait pas été mise à jour depuis plus de 10 ans, c'est ça?
Non, c'est bien cela. L'idée est de créer surtout un nouvel outil statistique appelé à changer chaque année, au plus près des attentes des employeurs et des bassins d'emploi. La liste actuelle est obsolète et n'a jamais reposé sur les réalités du terrain, indique Matignon. La ministre du Travail va donc réunir les fédérations, les employeurs, les régions, les partenaires sociaux pour analyser secteur par secteur les métiers où d'évidence les plans de formation ne suffiront pas à combler ces métiers aujourd'hui en tension. Métiers qualifiés dans l'informatique, l'intelligence artificielle, les algorithmes pour assurer les besoins en main d'œuvre dans les 10 années qui viennent, mais aussi sur des métiers aujourd'hui peu attractifs par leur niveau de salaire ou leurs difficultés. Il s'agit des aides-soignants, des aides à domicile, des métiers du BTP, ouvriers peu qualifiés, manutentionnaires. Combler ces offres d'emploi aujourd'hui non pourvues, 330 000 selon Pôle emploi, est important pour maintenir le niveau de croissance en France, souligne le gouvernement.
Pour autant, Laurent, le gouvernement n'a pas l'intention d'ouvrir grand les vannes pour les immigrés économiques.
Il ne s'agit pas non plus de créer de véritables quotas au sens strict par pays, mais bien par métier, avec des objectifs à atteindre, mais qui pourront être dépassés pour mieux faire tourner l'économie française. Donc, mais pas question d'ouvrir grand les vannes des titres de séjour. Le nombre de titres accordés pour motifs économiques devrait rester sensiblement le même qu'aujourd'hui, aux alentours de 35 000 par an. Le gouvernement veut en revanche assurer que ces titres de séjour délivrés figurent bien parmi des métiers recherchés en France.
Laurent Kramer, la droite salue ce virage. Elle portait déjà l'idée en 2007. Nicolas Sarkozy était alors président. En revanche, la France insoumise regrette, je cite, que le gouvernement ne recule devant rien pour stigmatiser une partie de la population. À gauche, on condamne également une instrumentalisation de la question migratoire. Marine Le Pen, de son côté, dénonce un enfumage. La patronne du Rassemblement National sur le front des retraites également cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement. Elle a interpellé le Premier ministre Édouard Philippe qui lui a répondu dans un échange plutôt curieux, plutôt inattendu, qui n'a pas beaucoup plu aux autres formations politiques. Un échange, Cécilia Arbona, où l'on se serait cru déjà au second tour de la future élection présidentielle en 2022.
On l'attendait sur l'immigration, mais Marine Le Pen prend à revers tout le monde et choisit d'interpeller aujourd'hui Édouard Philippe sur la réforme des retraites.
En vous attaquant aux retraites ou à l'indemnisation du chômage, vous ignorez que ce que vous appelez avec mépris les droits acquis constitue le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, monsieur
merci,
le Premier ministre, allez-vous
merci,
renoncer à la réforme
la
des
députée.
Retraites?
La parole est à monsieur le Premier ministre.
Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre, et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République. Peut-être. Je ne sais pas, je ne veux pas préempter ces moments.
L'annonce de ce duel jette un froid dans l'hémicycle et surprend même Marine Le Pen.
Je vais pas être flatté, enfin j'en suis pas là, j'ai pas 4 ans et demi, je n'ai pas encore d'école. Bon. Exprime un véritable choix aux yeux des Français, c'est celui qui est porté par Emmanuel Macron et celui que j'ai l'honneur de porter. Deux choix clairs. Les autres mouvements politiques sont en train de mourir de leurs propres ambiguïtés.
Édouard Philippe a clairement exposé en public la stratégie d'Emmanuel Macron, hein, se choisir lui-même son unique adversaire en gommant et en niant les partis d'opposition qui se retrouvent simples spectateurs d'un match qui semble bien se préparer sans eux.
Cécilia Arbona. Elles n'ont pas attendu la catastrophe de Lubrizol pour sonner l'alarme. Les communes abritant des sites Céveso se font entendre aujourd'hui après des mois de travail pour rédiger un livre blanc et après l'incendie donc de l'usine à Rouen qui donne un écho tout particulier à leurs inquiétudes. On recense 744 communes abritant des sites à risque en France. Bonsoir Célia Quiré, vous allez nous expliquer, selon leur association, les communes sont toujours aussi mal préparées.
Oui, en cas d'accident industriel, un message ou un tweet très court de la préfecture disant par exemple « Cet incendie ne présente pas de risque sanitaire » ne suffit plus pour ces élus. Dans ce livre blanc, ils demandent un autre système d'information de la population qui mobiliserait les opérateurs de téléphone mobile pour que les habitants sachent précisément comment réagir. Yves Blin est député du Rhône et maire de Fézin, cette commune de la vallée de la Chimie près de Lyon. Pour lui, il faudrait que les habitants puissent avoir des réponses précises dans un échange par SMS ou sur les réseaux sociaux avec les services de l'État.
Aujourd'hui, les sirènes, on sait que c'est inopérant et totalement obsolète. Personne n'est capable de les décrire, on les entend pas toujours. Donc, c'est pas un système satisfaisant. La première chose à faire, c'est déjà améliorer la capacité et les supports d'information de la population. Et la deuxième chose, c'est de répondre aux questions de la population. On voit bien sinon que l'impression que l'on retire d'un accident peut provoquer des comportements qui sont inadéquats. Vous pouvez, par exemple, face à un accident qui est manifestement un peu violent, c'était le cas par exemple à Lubrizol, vous avez envie de partir. C'est un moment où vos enfants sont à l'école, d'aller les chercher à l'école. Et c'est probablement ce qu'il ne faut pas faire.
Or, depuis la catastrophe d'AZF en septembre 2001, les méthodes de communication de crise sont restées défaillantes et les maires ne sont toujours pas dans la boucle. Et ce n'est pas le seul problème. Les milliers d'entreprises riveraines des sites Céveso ne sont pas assez protégées et les investissements nécessaires n'ont pas été réalisés sur les habitations. Un exemple, sur les 16 000 logements qui doivent bénéficier de travaux de mise en protection face aux incendies ou aux explosions, moins de 5% en ont bénéficié.
Célia Quiré, merci à vous.
Il est 18h12. Amélie, c'est une arme de perturbation massive pour les pouvoirs menacer la coupure d'Internet.
En Irak, le régime a suspendu les connexions web face aux manifestations demandant la chute des dirigeants corrompus et incompétents, selon les protestataires. Des affrontements se produisent près des bâtiments officiels à Bagdad, la capitale, et dans le principal port d'Irak. Au moins 10 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre ces deux derniers jours, en tout depuis un peu plus d'un mois. Le mouvement de colère aurait fait plus de 270 morts. La justice israélienne ordonne l'expulsion du directeur d'une grande ONG, Human Rights Watch, Omar Shakir, citoyen américain et responsable de l'organisation humanitaire pour Israël et les territoires palestiniens, est accusé de soutenir le boycott de l'État hébreu. Le gouvernement israélien doit maintenant décider ou non de l'expulser. S'il le fait, ce serait une première depuis l'adoption d'une loi en 2017 pour expulser des étrangers qui soutiennent le boycott d'Israël. La suite du voyage officiel d'Emmanuel Macron en Chine et l'accent mis aujourd'hui sur les partenariats culturels. Le président français a inauguré le Centre Pompidou de Shanghai, petit frère du musée parisien d'art contemporain, troisième implantation à l'étranger. Près de 25 000 mètres carrés d'exposition avec des Kandinsky, des Picasso, des Soulages et des œuvres asiatiques. La culture comme outil de diplomatie, c'est aussi pour Emmanuel Macron la signature d'autres partenariats, Anne Chepo.
L'accord le plus important concerne le musée Picasso Paris et la fondation Giacometti. Les deux institutions ont noué un partenariat de 5 ans avec un musée privé de Pékin. Elles y présenteront dans un bâtiment appelé le Cube 2 à 3 expositions par an. La première, prévue dès le printemps prochain, mêlera les œuvres des deux artistes. Autre partenariat dont la signature a été momentanément reportée, celui entre la ville de Shenzhen et le musée Rodin. S'il est conclu d'ici la fin de l'année, des œuvres du plus célèbre des sculpteurs seront exposées à partir de 2023. Dans un nouveau musée construit spécialement. En attendant, le château de Versailles signe lui demain à Pékin un accord pour la présentation de l'exposition « La Chine et Versailles » à la Cité Interdite en juillet 2020. Enfin, la musique n'est pas oubliée avec un accord de coopération sur 3 saisons entre l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le China Philharmonic Orchestra.
Un mot pour finir, Fabienne, du prix Femina, prix littéraire décerné uniquement par des femmes. Il a été attribué aujourd'hui à Sylvain Prudhomme pour son roman « Par les routes ». C'est publié chez l'Arbalète Gallimard.
Et merci beaucoup Amélie Perrier.